France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, pétrole contre nourriture, scandale à l'ONU. Lorsqu'en janvier 2004, un journal irakien publie une liste de plus de 260 personnalités suspectées d'avoir bénéficié des largesses du dictateur déchu Saddam Hussein, personne n'imagine encore l'ampleur de l'affaire qui s'apprête à éclater. Pourtant, cette publication va entraîner l'Organisation des Nations Unies dans le plus grand scandale de corruption de son histoire. Une affaire survenue dans le cadre d'un ambitieux et inédit programme humanitaire. Pétrole contre nourriture, c'est le nom de ce programme, plutôt avenant d'ailleurs. Sauf qu'il deviendra aussi le nom de l'affaire qui en découle, qui plonge l'ONU dans l'embarras et qui éclabousse de nombreux pays, dont la France, avec 11 noms de personnes sur la liste publiée par le journal irakien, parmi elles, des figures de premier plan. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Lemaître, docteur en droit, spécialiste de la corruption dans le secteur des matières premières. Elle a contribué à l'ouvrage collectif intitulé « Multinationale, une histoire du monde contemporain » publié aux éditions de La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Lundi 21 janvier 2013. Il y a foule ce jour-là dans la salle des paperdues du tribunal correctionnel de Paris. Curieux et journalistes sont présents en nombre pour assister à la première journée d'un procès qui a d'ores et déjà fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause. Après plus de 10 ans d'enquête, la justice s'apprête enfin à réunir les protagonistes d'une affaire hors norme. On dit souvent ça, hors norme, à tel point que la formule finit parfois par être galvaudée, mais là, elle est justifiée. Déjà par le nombre de prévenus, 18, et par la qualité de ceux qui garnissent le banc. Une journaliste, un avocat, un ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, un ancien ambassadeur de la France à l'ONU, un capitaine d'industrie, mais aussi un ancien ministre de l'Intérieur, figure emblématique de la droite française et de la Ve République, Charles Pasqua. Tous sont suspectés d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, corrompus par le régime irakien du dictateur Saddam Hussein.
En France, Michael, la justice se penche sur les liens parfois troubles entre l'ancien régime irakien et les autorités françaises de l'époque.
Et l'ancien ministre Charles Pasqua, le groupe Total, d'anciens diplomates, 17 prévenus au total, comparaissent à partir de cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'avoir participé au détournement du programme pétrole contre nourriture. En 1996, l'Irak avait été autorisé à vendre un peu de pétrole pour acheter des biens de première nécessité. En fait, un circuit parallèle alimentait le régime de Saddam Hussein et ses amis.
L'ouverture de ce procès en France marque l'un des derniers rebondissements de l'une des plus grandes affaires de corruption de notre époque. Un dossier international qui trouve sa source dans un ambitieux programme humanitaire imaginé dans les couloirs de la puissante Organisation des Nations Unies.
Le silence de la nuit déchiré par un énorme vrombissement. Le premier AWACS américain vient de décoller de la base aérienne militaire de Riyad. Il est 22h50, heure française. L'opération Tempête du désert débute. La guerre contre l'Irak est déclenchée. À 1h20, les correspondants des chaînes américaines CNN et ABC à Bagdad font état de tirs de batteries antiaériennes et de violentes explosions. Le correspondant ouvre la fenêtre de la pièce où il se trouve. Écoutez. À 5 heures du matin, Bagdad sort de son silence. Dans un message radio, Saddam Hussein annonce que le peuple irakien vaincra les mécréants. L'aube s'est levée, les pilotes rejoignent leur base. Selon les responsables militaires, aucun appareil allié n'a été abattu.
Déclenché en janvier 91 pour mettre fin à l'invasion du Koweït par l'armée irakienne, l'opération Tempête du désert est un véritable succès militaire, certes, mais à peu de frais. Après des bombardements massifs, les forces de la coalition internationale parviennent facilement à faire reculer les troupes de Saddam Hussein qui se replient en Irak. Pensez donc, une coalition des armées parmi les plus puissantes du monde, face à un pays équipé d'armes russes, anciennement soviétiques, déjà dépassées, des scuds que les missiles patriotes américains interceptent sans problème. Tout était plié d'avance. Si le dictateur irakien parvient à s'accrocher au pouvoir, la communauté internationale, États-Unis en tête, est bien décidée à le mettre sous pression. Sous l'égide de l'ONU, un déluge de sanctions s'abat sur Bagdad. L'objectif est clair, étouffer le régime et forcer le départ de Saddam Hussein. Les premières mesures visent les capacités militaires de l'Irak. Le pays doit se désarmer et se voit contraint de mettre un terme à ses programmes d'armes chimiques et de destruction massive présumés. Les relations diplomatiques sont suspendues avec presque tous les pays du monde. Et les diplomates irakiens voient leur capacité de voyage drastiquement réduite. Les vols internationaux sont limités à quelques rares missions humanitaires. En gros, le pays est mis sous cloche. Mais c'est surtout d'un point de vue économique que les sanctions sont les plus strictes. En plus d'un blocus commercial imposé sur de très nombreux secteurs d'activité, les États membres de l'ONU s'accordent sur un embargo total sur le pétrole, la principale richesse du pays. Donc, une catastrophe pour l'Irak, qui détient alors, rappelons-le, la seconde réserve mondiale d'or noir et dont les exportations représentent 95% du PIB. Malgré un régime de sanctions d'une intensité inédite, Saddam Hussein tient encore et toujours son pays d'une main de fer et tire profit de la situation. La contrebande de pétrole bat son plein via les pays voisins et la propagande, autant que la répression, contient la population. Pourtant, c'est bien cette même population irakienne qui paye le prix fort de l'embargo. Le pays est littéralement asphyxié par les sanctions. L'économie est à l'arrêt et l'inflation à son plus haut niveau. Après 4 ans d'un blocus strict, le pays plonge dans une crise humanitaire sans précédent. Les images d'une population irakienne à bout de souffle et de milliers d'enfants décharnés font le tour du monde.
Dans cette cité médicale de Bagdad, 210 enfants de moins de 12 ans sont hospitalisés. Tous souffrent de malnutrition. Deux chirurgiens et un anesthésiste français viennent d'arriver. L'hôpital ne procure que la moitié de la nourriture nécessaire aux enfants. La famille de cette petite fille ne peut lui donner ce jour-là que du pain et de la salade. Elle est très anémie et souffre d'une maladie hépatique. Les médecins français dressent déjà un premier bilan.
L'état santé des deux groupes de population les plus fragiles, les enfants et les vieillards, est catastrophique en raison des carences alimentaires auxquelles ces deux parties de la population sont soumises.
La population civile irakienne paie donc le prix fort de l'embargo imposé au pays. Les Français ont déjà pris d'autres rendez-vous pour des opérations. Ils doivent revenir ici dans un mois ou deux.
La catastrophe humanitaire qui frappe la population irakienne provoque un immense émoi à travers le monde. En Europe, aux États-Unis et ailleurs, les manifestations se multiplient pour demander la levée des sanctions qui sévissent depuis près de 5 ans. Rien n'y fait. Les responsables américains, leaders de la coalition qui cherche à faire tomber Saddam Hussein, se montrent inflexibles. Interrogé par une journaliste de CBS sur les 500 000 enfants irakiens morts depuis la mise en place de l'embargo, la secrétaire d'État de l'administration Clinton, Madeleine Albright, affirme sans sourciller que c'est le prix à payer. Mais la pression populaire devient trop forte et l'Amérique finit par plier. Il faut trouver une solution, mais hors de question de lever les sanctions. Alors, c'est dans les couloirs de l'ONU qu'on imagine un programme humanitaire inédit dans l'histoire de l'organisation. Baptisé Oil for Food, pétrole contre nourriture en français, il doit permettre à l'Irak de vendre une quantité limitée de son pétrole sur des périodes de 6 mois renouvelables. L'argent récolté est alors placé sur un compte géré par l'ONU et ne doit servir qu'à l'achat de produits de première nécessité, nourriture et médicaments uniquement. C'est un mécanisme et un programme inédit qui interroge certains observateurs. Financé directement par l'Irak et pour l'Irak, pétrole contre nourriture est-il vraiment humanitaire? Eh bien, on ne se pose pas vraiment la question au sein des Nations Unies, non. L'idée semble faire l'unanimité. On y voit aussi un moyen efficace de ponctionner les sommes qui doivent servir à indemniser les victimes de la guerre menée par Saddam au Koweït. Créé en avril 1995 avec l'adoption de la résolution 986 de l'ONU, pétrole contre nourriture n'entre pas immédiatement en vigueur. Et pour cause, le régime irakien refuse d'y prendre part, oui, critiquant une atteinte à sa souveraineté. Les négociations entre l'émissaire irakien à New York et les responsables internationaux durent des mois. Finalement, en mai 1996, plus d'un an plus tard donc, les deux parties tombent d'accord, ce dont se félicite le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali.
La signature du protocole d'accord est un succès. Cette résolution est basée sur l'un des principaux objectifs des Nations Unies, qui est de soulager la pauvreté. En l'occurrence, les plus pauvres souffraient en Irak. C'est donc une résolution humanitaire.
Saddam Hussein a fini par céder. Et ce n'est pas un hasard. Parce que durant les négociations pour la mise en œuvre du programme, le dictateur irakien est parvenu à obtenir d'importantes concessions. À savoir que l'argent issu de la vente du pétrole reste séquestré sur un compte géré par les Nations Unies, mais les responsables irakiens obtiennent de pouvoir décider seuls à qui vendre leur pétrole et à qui ils achètent les biens de première nécessité. Même si tout doit être validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une marge de manœuvre non négligeable. Un fait qui aura son importance. On y reviendra. Au siège de l'ONU, à New York, la mise en place de pétrole contre nourriture implique aussi une organisation sans précédent. On crée alors l'OIP, un organe entièrement dédié à la gestion pétrole contre nourriture. Dirigé par Benon Sevan, un haut fonctionnaire de l'ONU, il est divisé en deux pôles. Un premier, chargé de fixer chaque jour les prix du pétrole irakien et de valider les contrats de vente aux compagnies agréées. Un second, qui doit confirmer les contrats d'achat des produits de première nécessité. L'OIP gère ainsi plus de 2 milliards de dollars de bénéfices par phase de 6 mois, soit plus que le budget annuel de l'ONU et qui se finance entièrement grâce aux revenus du pétrole irakien. Le processus s'enclenche officiellement en décembre 1996. Après 6 ans d'inactivité, les pipelines irakiens fonctionnent à nouveau et livrent les compagnies pétrolières, ravies évidemment d'acheter un brut vendu sous le cours du marché. Seul décideur, le régime de Saddam Hussein fait bénéficier les pays amis de ce pétrole bon marché. Parmi les meilleurs clients du programme, des compagnies russes, chinoises et françaises, dont le fleuron tricolore, Total. Dans le même temps, les premières livraisons de produits de première nécessité arrivent en Irak. Et la population voit enfin les effets du programme onusien et les bénéfices de la vente du pétrole. Mais dès les premières distributions effectuées par des agents du pouvoir à Bagdad, les choses ne se passent pas comme prévu. Dans le documentaire « Pain, pétrole et corruption » diffusé sur Arte en 2008, un médecin irakien se souvient.
On recevait d'abord les denrées de base, du riz, du sucre, de l'huile. Et effectivement, les quantités étaient là. On allait les chercher auprès des délégués de quartier, mais certains de ces délégués étaient corrompus. Au lieu de mettre 1 kilo, ils mettaient 500 grammes. Ils remplaçaient le thé encore bon par du thé périmé. Et ils faisaient pareil avec l'huile, par exemple. Ça se passait comme ça pour la nourriture.
Malgré tout, la situation s'améliore rapidement pour une population irakienne revenue de loin. Tant et si bien que le programme prévu pour durer initialement sur 3 salves de 6 mois est régulièrement renouvelé par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui s'accompagne parfois d'un relèvement du plafond de vente de pétrole, mais aussi d'un élargissement du nombre d'entreprises autorisées à vendre leurs biens à l'Irak. Ça veut dire que le commerce n'est plus cantonné aux seuls biens alimentaires et médicaux, mais étendu à des domaines variés comme l'énergie, l'assainissement des réseaux d'eau potable, la reconstruction des infrastructures pétrolières et publiques, ou l'agriculture. Au début de l'année 2003, Pétrole contre nourriture entame sa 13e phase. En 6 ans, 4500 entreprises du monde entier participent au programme des Nations Unies qui génère près de 64 milliards de dollars, dont 34 ont déjà été dépensés pour l'achat de biens de première nécessité, 19 alloués au fonds d'indemnisation des victimes de la guerre de 1990 et 2 pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ambitieux programme humanitaire de l'ONU. Bien. Mais le 20 mars 2003, quelques semaines avant le début de la 14e phase, Pétrole contre nourriture est brutalement interrompu. Une coalition menée par les États-Unis envahit de nouveau l'Irak.
France Inter.
My fellow citizens,
mes chers concitoyens, à l'heure qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont dans les premières phases des opérations militaires, dans le but de désarmer l'Irak, de libérer son peuple et de protéger le monde d'un danger grave.
C'était George Bush, tôt ce matin, à 4h15, très précisément, heure française, annonçant donc le début des opérations militaires contre l'Irak et le déclenchement de la guerre, ceci depuis la Maison-Blanche. Une intervention qui faisait suite à une première série de bombardements ciblés sur la périphérie de la capitale irakienne, Bagdad. Des bombardements ayant pour but d'éliminer Saddam Hussein. Les choses semblent s'accélérer sur place dans le Golfe. Les troupes américaines postées au nord du Koweït ont en effet reçu l'ordre d'être prêtes au combat. Un ordre qui tombe alors que toute la journée, l'aviation américaine a bombardé des objectifs dans les zones d'exclusion aérienne du sud de l'Irak afin de préparer l'avancée des forces américaines et britanniques massées au Koweït.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. Virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier pétrole contre nourriture.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
C'était le plus grand, le plus haut, le plus lourd symbole du pouvoir de Saddam Hussein sur l'Irak. Une statue géante du Raïs sur laquelle la foule va se déchaîner. On hurle sa joie ou sa colère. Le visage de Saddam Hussein, celui que tout Irakien devait aduler en public, n'est plus qu'un trophée qui ne fait plus peur à personne.
La chute du régime de Saddam Hussein marque officiellement la fin du programme pétrole contre nourriture, définitivement enterré et oublié. Enfin, c'est ce qu'on subodore. Car en janvier 2004, moins d'un an après l'invasion de l'Irak par l'Amérique et ses alliés, Al-Mada, un quotidien de Bagdad, fait une révélation qui va remettre pétrole contre nourriture au cœur de l'actualité. Il s'agit d'une liste de personnalités internationales sur laquelle figurent plusieurs Français.
On en vient maintenant à cette affaire irakienne qui s'invite dans la politique française. D'après un quotidien de Bagdad, Saddam Hussein récompensait pour service rendu des personnalités qui défendaient les intérêts du régime. Les listes auraient été retrouvées dans les palais présidentiels. 267 personnes, dont 11 Français, Charles Pasqua par exemple. L'enquête à Bagdad de nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Philippe Jassin.
Karim Fakri a créé Al-Mada au mois de juin dernier et il tient son premier scoop. Son journal publie une liste de 267 personnalités ayant bénéficié de pots de vin versés par Saddam Hussein. Parmi ces personnalités, 11 Français, dont Charles Pasqua.
Charles Pasqua, il a eu 4 millions de barils pour juin 2001, 4 millions pour juillet, 4 millions pour août.
Le ministère du Pétrole s'est emparé de l'affaire ce matin. Il a décidé immédiatement d'engager des poursuites pour, dit-il, récupérer l'argent du peuple irakien.
Principale personnalité française présente sur la liste publiée par le quotidien irakien, donc l'ancien ministre de l'Intérieur français, qui s'en défend. Selon lui, les accusations n'ont aucun sens. Et pour l'heure, le mécanisme dénoncé semble opaque et difficilement compréhensible. C'est une accusation de plus, mais elle n'entraîne aucune poursuite judiciaire. De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, c'est une autre histoire. L'ONU est déjà sous le feu des critiques. Dans un rapport, le Congrès américain dénonce les potentiels détournements massifs du régime irakien durant les différentes phases de pétrole contre nourriture. Alors quand le patron du programme, Benan Sevan, apparaît sur la liste d'Al-Mada, comme l'un des principaux bénéficiaires des largesses de Saddam Hussein, la machine médiatique s'emballe. Les médias conservateurs américains, déjà vent debout après le refus de l'ONU de suivre l'Amérique dans sa nouvelle guerre au Moyen-Orient, haussent le ton. Les accusations de malversation pleuvent de toutes parts. En avril 2004, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui refusait jusque-là la tenue d'une enquête d'envergure, cède à la pression médiatique.
Le monde au jour le jour, les Nations Unies doivent se sortir d'un nouveau scandale. L'ancien programme pétrole contre nourriture aurait été utilisé par des diplomates et des entreprises de différents pays pour détourner des millions de dollars. À New York, Céline Curiol.
L'affaire a débuté il y a déjà 2 mois, mais jusqu'alors, les Nations Unies avaient gardé profil bas. Fin janvier, le journal irakien Al-Mada publie une liste de 270 individus de 46 nationalités différentes qui auraient tiré profit des ventes du pétrole irakien en violation du programme pétrole contre nourriture. Face à ces allégations, le secrétaire général a tout d'abord demandé qu'on interroge son personnel, mais au vu de la dimension internationale de l'affaire, il souhaite à présent mettre en place une commission d'enquête indépendante pour que l'ONU n'endosse pas toutes les responsabilités.
Cette commission d'enquête indépendante est confiée à Paul Volcker. Ancien président de la réserve fédérale américaine, il dispose des pleins pouvoirs et de moyens illimités pour mettre au clair le fonctionnement du programme pétrole contre nourriture et pour faire la lumière sur les accusations de corruption. Durant plus d'un an, les dizaines d'enquêteurs de la commission épluchent les rapports de l'OIP, interrogent les anciens acteurs du programme, déterrent des archives de l'ancien régime irakien et fouillent les bureaux des plus hauts responsables de l'ONU. Un travail de fond, de bénédictin même, qui donne lieu en septembre 2005 à la remise d'un rapport accablant sur la corruption massive mise en place par le régime de Saddam Hussein durant l'emblématique programme humanitaire onusien. Accablant également pour une organisation des Nations Unies incapable d'enrayer les dérives, comme l'explique lui-même Paul Volcker.
Je veux insister sur le fait que la corruption de ce programme par Saddam et de nombreux participants, et elle a été considérable, aurait été bien moins préjudiciable avec une gestion plus disciplinée par l'ONU et ses agences.
Mais surtout, le rapport de la commission Volcker permet d'y voir plus clair sur les mécanismes mis en place par le régime de Saddam Hussein pour tirer profit de pétrole contre nourriture. On découvre ainsi qu'à partir de la phase 8 du programme, donc à la fin de l'année 1999, le régime irakien impose une surtaxe systématique de 10% à toutes les entreprises souhaitant exporter leurs biens sur le territoire irakien, surtaxe négociée en direct par le régime et surtout versé en dehors des circuits mis en place par les organes de contrôle de l'ONU. Si certaines entreprises se retirent, beaucoup acceptent, trop attirés par le prometteur marché irakien. Les enquêteurs estiment ainsi à 1,5 milliard de dollars les profits tirés de cette surtaxe par le régime irakien. Et ce n'est pas tout. On découvre également que c'est aussi à travers la vente du pétrole que Saddam Hussein et ses proches parviennent à détourner de l'argent. Et là encore, le mécanisme est mis en place, malgré les contrôles supposés de l'ONU. Dans le documentaire « Pain, pétrole et corruption », l'ancien directeur de la SOMO, la Société Nationale Pétrolière Irakienne, revient sur la mise en place de ce système.
Pendant la phase 8, des ordres ont été donnés disant qu'il fallait assouplir le prix du pétrole brut pour que les acheteurs aient un avantage. Et qu'on récupère ensuite une partie de cet avantage payable en liquide sur certains comptes ouverts dans divers endroits du monde. Le prix a été baissé d'environ $0.5. Une moitié allait à l'acheteur et l'autre était reversée à l'Irak.
En d'autres termes, un système de rétrocommission gagnant-gagnant pour le régime comme pour les sociétés pétrolières qui bénéficient là encore d'un prix avantageux sur le pétrole irakien. Mais pour éviter d'être pris la main dans le sac, beaucoup de grandes compagnies pétrolières engagées dans le programme décident à partir de cette phase 8 de passer par de discrets négociants en pétrole. Presque du jour au lendemain, plusieurs grandes sociétés se retirent du marché irakien quand ces nouveaux acteurs apparaissent. Tiens donc. Des négociants qui se font en réalité office de société écran pour le compte de ces acteurs traditionnels qui souhaitent rester, on l'a dit, le plus discret possible. C'est le cas de Total, qui passe désormais par l'opaque société Socar pour se fournir en pétrole irakien. Une pratique qui aurait dû être identifiée selon les enquêteurs, mais qui n'a jamais fait l'objet de signalement par les instances de contrôle de l'OIP. Sur ce volet du système mis en place par le régime de Saddam Hussein, la commission Volcker estime le montant de la corruption à près de $230 millions. Enfin, les enquêteurs reviennent sur la fameuse liste publiée par Almada. Le rapport confirme l'existence d'allocations de barils de pétrole distribués à des personnalités influentes considérées comme proches ou favorables au régime de Saddam Hussein. Parmi elles, des personnalités, notamment françaises, ont donc obtenu des bons pour vendre des millions de barils de pétrole issus des quotas réservés au programme humanitaire. Des ventes réalisées auprès de discrets négociants et générant quelques centaines de dollars de profit sur chaque baril. Ça peut paraître peu, mais quelques centimes multipliés par des millions de barils, ça fait plusieurs centaines de milliers de dollars de bénéfices. Mais alors pourquoi ces cadeaux à ces personnalités ? Concernant Charles Pasqua, par exemple, le rapport Volcker pointe du doigt les positions farouchement anti-américaines de cette figure sulfureuse de la Ve République. Ses prises de parole répétées contre la mise en place de l'embargo ou la guerre déclenchée par l'Amérique en 2003. On y évoque aussi les relations qu'il entretient depuis de nombreuses années avec Tariq Aziz, l'un des plus hauts responsables du régime irakien. suffisant peut-être pour être apparemment récompensé d'une allocation de 11 millions de barils de pétrole. Donc y a-t-il corruption ? Le rapport ne se prononce pas. C'est en tout cas ce que semble penser le juge d'instruction Philippe Courroy, qui met en examen l'ancien ministre de l'Intérieur le 5 avril 2006. Le journal de 19h de France Inter s'en fait l'écho.
Ça se serait passé en marge du programme de l'ONU, pétrole contre nourriture en Irak. Charles Pasqua est soupçonné d'avoir touché des bons d'achat de barils de pétrole par le régime de Saddam Hussein, bons qu'il aurait ensuite converti en argent. L'ex-ministre de l'Intérieur a été mis en examen aujourd'hui par le juge Courroy pour notamment trafic d'influence aggravé, Étienne Monin.
Et c'est la 7e mise en examen pour l'ancien ministre de l'Intérieur, soupçonné d'avoir reçu des bons pour plus de 10 millions de barils de pétrole qui auraient été revendus à une société suisse à partir de 1999. Charles Pasqua avait déjà été mis en cause par une commission du Sénat américain. Il est poursuivi avec l'un de ses proches. Depuis le début, il se dit étranger au dossier.
Cette mise en examen médiatique n'est pas la seule dans ce qui est désormais le volet français de l'affaire pétrole contre nourriture. Depuis plusieurs années maintenant, le juge d'instruction s'est emparé du sujet. D'abord en s'intéressant aux activités de Total en Irak, avant même la publication du rapport Volcker, puis en se saisissant des cas des personnalités présentes sur la liste publiée en janvier 2004 par le journal irakien. Il est vrai qu'elles ont de quoi susciter la curiosité de tout bon magistrat instructeur. En plus de Charles Pasqua, se trouve Bernard Guillet, son ancien conseiller diplomatique, qui a multiplié les voyages en Irak et qui a lui-même bénéficié d'une allocation de bons pour 6 millions de barils. Il y a aussi Jean-Bernard Mérimée, l'ancien ambassadeur de France à l'ONU, négociateur dans la mise en place du programme humanitaire, bénéficiaire lui aussi, toujours selon l'accusation, de 6 millions de barils. Figure également le nom de Serge Boisdevet, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, allocataire présumé, lui, de 32,5 millions de barils. On repère également un proche de Jacques Chirac et un membre du RPR qui auraient, eux, bénéficié respectivement de 25 et 17 millions de barils. Bref, que du beau monde et un emploi du conditionnel, bien sûr, puisque rien n'a été prouvé. Durant de longs mois, le juge Philippe Courroy et son successeur Serge Tourneur s'interrogent sur les liens entre ces personnalités françaises et le régime irakien. S'agit-il de paiements en remerciement de services rendus ou de commissions tout à fait légales, comme certains mis en cause l'affirment ? Les juges multiplient les voyages en Irak et aux États-Unis, où les équipes de la commission Volcker leur communiquent toutes les informations disponibles. L'enquête est longue, certes, compliquée, mais elle aboutit finalement à un renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris, grâce à une ordonnance signée par le juge Serge Tourneur le 28 juillet 2011. Aux côtés des personnalités citées dans la liste d'Almada, se trouve également la société Total, en tant que personne morale, mais aussi son PDG, Christophe de Margerie. Ouvert le 21 janvier 2013, le procès dure un mois. Le 28 juillet, le tribunal correctionnel rend son jugement.
Dans le procès pétrole contre nourriture, les 20 prévenus ont été relaxés en début d'après-midi par le tribunal correctionnel de Paris. Parmi eux, le groupe Total et Charles Pasqua, tous étaient soupçonnés d'avoir été impliqués dans le contournement du programme de l'ONU. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Au terme de 8 ans d'instruction, le tribunal a donc estimé qu'aucun des délits retenus contre les prévenus n'était constitué.
Pour le tribunal correctionnel, il n'y a pas de trafic d'influence. Le régime de Saddam Hussein a pu attribuer des barils de pétrole à des personnalités amis, ça ne prouve pas que ces personnalités aient monnayé leur influence pour tenter de faire lever l'embargo.
Une relaxe générale motivée selon les juges par une absence de preuves tangibles de pacte corruptif entre le régime irakien et les mis en cause. S'il satisfait les prévenus dans cette affaire, ce jugement laisse comme un goût amer aux enquêteurs qui ont travaillé durant près de 10 ans pour que ce procès puisse se tenir. Ce jugement est aussi le reflet des moyens mis à disposition de la justice pour traiter de telles affaires, du moins à l'époque. Qu'en serait-il aujourd'hui ? Si pour la plupart des prévenus, cette relaxe marque la fin véritable de l'affaire, elle n'est pas définitive pour tout le monde. Quelques jours plus tard, en effet, le parquet annonce faire appel de la décision concernant la société Total. Le géant pétrolier français aura droit donc à un second procès et sera condamné en 2016 à 750 000 euros d'amende. Condamnation confirmée par la Cour de cassation 2 ans plus tard. terminé, l'époque bénie où la corruption d'agents étrangers pouvait faire l'objet d'une déduction d'impôt sur les sociétés. Ces procès français sont les derniers issus du scandale de corruption pétrole contre nourriture. Si quelques procédures ont débouché sur des condamnations aux États-Unis ou en Australie, la plupart des sociétés et personnalités impliquées dans le scandale s'en tirent sans encombre. C'est le cas notamment de Ben Hansevan, l'ancien directeur du programme. Parti précipitamment de New York à la veille du rendu du rapport Volcker, le fonctionnaire de l'ONU est réfugié chez lui à Chypre, où il n'a jamais été inquiété.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, pétrole contre nourriture, notre invitée Sophie Lemaître. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous êtes à Montpellier dans les studios d'ICI Héros, que nous remercions au passage pour leur accueil. Vous êtes docteur en droit, docteur avec un E, spécialiste de la corruption dans le secteur des matières premières. Vous avez contribué à l'ouvrage collectif intitulé « Multinationale, une histoire du monde contemporain » publié aux éditions de La Découverte. Alors d'abord, concernant l'issue du procès et la relaxe générale prononcée en première instance, comment analysez-vous ce jugement ?
C'était une surprise générale parce qu'en fait ce procès c'était vraiment le premier pour corruption d'agents publics étrangers. Donc il y avait de grandes attentes à son sujet et quand il y a eu la relaxe pour toutes les personnes qui travaillent sur les questions de corruption, c'était une vraie surprise et on attendait vraiment cette décision de la cour d'appel qui est arrivée en 2016 comme vous l'avez dit. Et là on a bien vu que la décision était différente, l'interprétation aussi de ce qui était de la corruption d'agents publics étrangers était très différente de ce que le tribunal avait décidé en 2013.
Et pensez-vous que si le procès s'était tenu aujourd'hui, les prévenus auraient été relaxés ? Je veux dire, est-ce que la justice est mieux dotée aujourd'hui pour traiter ce genre d'affaires ?
Alors, c'est une réponse en oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des évolutions. Que ce soit en termes, par exemple, de peine. Là, une personne physique qui serait reconnue coupable de corruption d'agent public étranger encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Et une personne morale jusqu'à 5 millions d'euros d'amende. Alors qu'on l'a vu, pour Total, c'était 750 000 euros. Et après, on a eu beaucoup d'évolutions, notamment en 2013 avec la création du parquet national financier. Et donc là, on avait des procureurs dédiés aux enquêtes complexes, aux enquêtes financières complexes, comme la corruption d'agents publics étrangers, comme les détournements de fonds, les fraudes, l'évasion fiscale. Donc on a cette évolution et dans le même temps, on a aussi, en fait, un manque de ressources, que ce soit pour les enquêteurs ou bien pour le parquet. Je vous donne juste un chiffre. Actuellement, enfin, en 2024, le parquet national financier avait 20 magistrats, traité 766 procédures, donc ça fait à peu près 38 dossiers par magistrat, ce qui est énorme vu qu'il traite des dossiers très complexes.
On en revient toujours au même problème concernant la justice.
Très souvent, et puis après, c'est sans compter le fait que ces affaires sont extrêmement complexes. Vous l'avez très bien dit, les mécanismes en place étaient faits de manière cachée, avec l'utilisation de sociétés écrans, de comptes bancaires mis à l'étranger, et encore à l'heure actuelle, c'est le cas, donc ça demande une expertise pointue, ça demande aussi d'avoir de la coopération de pays étrangers. Par exemple, si les comptes bancaires sont à Dubaï ou dans d'autres juridictions, il faut pouvoir obtenir les informations et c'est extrêmement compliqué, ce qui explique aussi les délais. Si certaines personnes peuvent se demander pourquoi ça prend autant de temps, c'est que ces enquêtes, malheureusement, pour obtenir les preuves, ça demande énormément d'investigation et de temps.
Et oui, ces bons de pétrole, ces barils de pétrole offerts, c'est pas des barils évidemment, les personnes
oui,
en question
repartent
des barils dans les bras, bien sûr.
Avec lui.
C'est des bons de pétrole en fait, transformés en on dire qu'on transforme l'or noir en, on blanchit l'or noir, si je puis dire. Ça passe par des sociétés écrans, sociétés offshore, comment ça se passe ?
Là, dans ce système-là, c'était comme des bons d'achat en fait que les personnes recevaient, et puis du coup, il fallait trouver qu'est-ce qu'elles pouvaient faire avec ces bons de pétrole. Elles n'étaient pas des sociétés, elles faisaient pas partie du secteur, donc il fallait qu'elles trouvent des sociétés qui veuillent bien leur acheter ces bons et obtenir en échange du coup de l'argent en échange de l'achat de ces bons. Donc oui, c'est passé par différents circuits opaques, par des sociétés écrans, des comptes bancaires situés dans différents pays.
Bien sûr. Alors, que Total soit mis en cause, bon, on le comprend, hein, c'est une société pétrolière, mais alors, Charles Pasqua, Jean-Bernard Mérimée, Serge Boisdevet, moi je me pose des questions, parce qu'ils ne sont pas présidents de la République, enfin, ils n'ont pas de pouvoir diplomatique fort, ou de diplomatie parallèle, ça existe aussi, mais enfin, pourquoi ils auraient bénéficié des largesses de Saddam Hussein, dès lors que ce ne sont pas des gens qui, a priori, peuvent faire pencher la balance géopolitique d'un côté ou d'un autre?
Bah, comme vous le racontiez, en fait, on voit que certaines de ces personnes-là avaient pris position en faveur du gouvernement irakien, s'étaient prononcées contre l'embargo. Et donc, on avait cette idée que ces bons d'achat pour les barils de pétrole, c'était une manière de récompenser, en fait, le lobbying fait en faveur du gouvernement irakien. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans une position politique à une place élevée dans un gouvernement pour avoir des relations et voilà, faire du lobbying, rencontrer des personnes et essayer de jouer de son influence pour essayer de convaincre et de faire changer la position des États quant à l'embargo qui était contre l'Irak.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Sophie Lemaître, le versement des pots de vin est courant dans le monde des affaires et particulièrement dans le secteur pétrolier. Tout le monde se souvient de la gigantesque affaire Elf. Et puis la question des intermédiaires est toujours une question prégnante dans ce genre de choses. Est-ce que par la suite, les entreprises dont on a parlé ont été prises encore dans des affaires de corruption ou bien est-ce que pétrole contre nourriture leur a servi de leçon ?
Alors, en ce qui concerne Total, au même moment, en fait, en 2013, c'est-à-dire au moment du procès qui se tenait en France, l'entreprise a signé un accord avec le département de la justice américain pour des faits de corruption entre 1995 et 2004 en Iran. On estimait à ce qui est à peu près 60 millions de dollars de pots de vin qui ont été versés à des fonctionnaires iraniens pour qu'ils usent leur influence et obtiennent à l'entreprise des contrats. Et dans cette même affaire, en fait, en 2018, l'entreprise a été condamnée en France également pour des pots de vin entre 2000 et 2004 en Iran. Et depuis, Total, il n'y a pas eu depuis cette époque, il n'y a pas eu d'autres affaires, que ce soit des condamnations ou la signature d'accords avec différents acteurs. Après, on sait toujours que la corruption, avant de le découvrir, il peut se passer des années. Les affaires qu'on a actuellement, que ce soit dans le secteur pétrolier, mais dans d'autres secteurs, sont des faits de corruption qui ont eu lieu au milieu des années 2010. Donc peut-être que dans 5 ans, on découvrira que des entreprises dans le secteur pétrolier font encore actuellement de la corruption.
Et lesquelles, par exemple ?
Pour des affaires actuelles,
oui.
il y en a plusieurs. On a eu, par exemple, l'entreprise de négoce Glencore, qui a signé un accord avec la justice américaine pour des pots de vin qui ont été versés entre 2007 et 2018. Donc, Glencore, c'est vraiment un géant. Mm-hmm. Ils ont eu à verser 1,1 milliard de dollars aux États-Unis, 280 millions de pounds au Royaume-Uni et également aussi en Suisse, 152 millions. Et on leur reprochait voilà, d'avoir versé des pots de vin au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Brésil, au Venezuela et en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un exemple.
Ouais.
Je vous en donnais d'autres. Malheureusement, une litanie.
Alors, concernant l'ONU maintenant, est-ce que l'institution s'est remise en question à la suite de ce scandale ? Est-ce que ça a servi de leçon également de ce côté-là ?
Il y a eu au tout début, juste après l'affaire, et c'était vraiment important ce rapport de la commission Volcker, il y a eu des changements qui ont été annoncés par Kofi Annan, notamment le fait de mettre en place un bureau de l'éthique et d'adopter une nouvelle politique pour les lanceurs d'alerte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu des alertes pendant le programme Pétrole contre nourriture. En fait, il y avait des entreprises qui avaient alerté sur le fait qu'il y avait des surcharges qui devaient être payées.
Malheureusement, ça n'a pas empêché d'autres
scandales. On a eu au sein des différentes agences de l'ONU ces dernières années, il y a eu d'autres scandales. Par exemple, au sein de l'UNOPS en 2022. Alors l'UNOPS, c'est le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Et c'est un énorme scandale de corruption qui a vraiment ébranlé cette agence. Et d'ailleurs, la Finlande, qui contribuait de manière importante à ce bureau, s'est retirée du fait du scandale.
Alors, est-ce qu'il y avait des lacunes dans la conception de pétrole contre nourriture qui ont permis cette corruption ? Autrement dit, le ver était-il dans le fruit lors de la création de ce programme ?
Comme vous le racontiez, le gouvernement irakien a su négocier et a obtenu une certaine marge de manœuvre dans la négociation des contrats, et ce qui se comprend, c'est un pays souverain, mais en conséquence, c'est qu'on n'a pas anticipé les risques de corruption, on n'a pas mis en place les mesures de sauvegarde qui auraient permis d'éviter ces risques de corruption. Il n'y avait pas du tout de contrôle, la structure même du programme était extrêmement complexe et les responsabilités étaient peu claires. De ce fait, ça facilite aussi les pratiques de corruption, comme il y a eu tout ce qui était lanceurs d'alerte, les personnes qui ont pu alerter sur le sujet, elles n'ont pas été entendues. Et puis il y avait aussi une dizaine d'agences qui étaient autour, qui gravitaient autour de la mise en place de ce programme, et ça aussi, ça a contribué ça a permis à ce qu'il y ait un environnement en fait où on a pu avoir des pratiques de corruption. Et puis ce qu'il faut penser aussi, c'était il y a 30 ans, aujourd'hui ce serait assez différent. Aujourd'hui on a vraiment pris conscience de l'impact de la corruption et de la nécessité de mettre en place des programmes pour lutter contre la corruption. On est beaucoup plus attentif, on va mener des analyses avant de mettre en place des programmes et on va essayer d'identifier quels sont les risques et mettre en place des mesures, des systèmes de contrôle en fait pour éviter la corruption.
On ne l'a pas évoqué dans le récit, mais il y a eu un autre procès dans le volet français de pétrole contre nourriture, un procès qui concernait cette fois des entreprises comme Renault Truck ou Schneider Electric.
Oui, il y a eu une autre enquête qui s'est ouverte en 2006 et qui concernait à peu près 14 entreprises, donc Renault Trucks, Legrand, Schneider Electric Industries. Et là, on avait estimé qu'il y avait à peu près 250 000 euros de commissions qui auraient été versées. Et là, c'était en fait des surtaxes ou surcharges sur les marchandises qui étaient achetées. Alors, vous le disiez, ça s'était étendu. Au début, c'était limité aux denrées alimentaires et aux médicaments, mais après, c'était sur la vente de voitures, d'infrastructures, d'équipements agricoles, etc. Et là, on a un peu le même, si on regarde, le procès s'ouvre, la première instance, c'est en 2015, on a une relaxe pour le même raisonnement que pour ce qui s'est passé dans Pétrole contre nourriture 1, mais on a une condamnation en 2019 par la Cour d'appel, 12 entreprises et 2 personnes physiques qui seront condamnées pour corruption d'agents publics étrangers, et la Cour de cassation va rejeter les pourvois qui sont formés en 2021.
Bien, ce sera le dernier mot, il me reste à vous remercier Sophie Lemaître, je rappelle que vous êtes, docteur en droit, spécialiste de la corruption dans le secteur des matières premières et que vous avez contribué à l'ouvrage collectif intitulé « Multinationale, une histoire du monde contemporain », livre publié aux éditions de La Découverte. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier pétrole contre nourriture, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.